Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Cammeraygal de la nation Gurindjai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless, j'ai le plaisir de vous accompagner pendant cette heure d'émission en français. C'est une attaque qui a plongé l'Australie dans le deuil et dans la stupeur. Samedi, 5 femmes et un homme ont été tués par un homme armé d'un couteau dans un centre commercial de Bondi Junction à Sydney. On reviendra sur cet épisode douloureux avec le reportage sur place de Léo Roussel. Et alors que les actions militantes, notamment pour la défense de l'environnement, se multiplient en Australie, le droit de manifester y est-il menacé par des lois toujours plus restrictive? C'est la question qu'on se posera en fin d'émission. On va aussi faire le point sur l'actualité sportive, mais pour l'instant, c'est l'heure du journal. C'est parti. À la une de l'actualité de ce mardi 16 avril. L'agression au couteau hier soir d'un évêque d'une église orthodoxe dans l'ouest de Sydney constitue un acte terroriste. C'est ce que déclarent aujourd'hui la police et les services de renseignements australiens. Concernant l'attaque de samedi à Bondi Junction, Damien Guéraud, le jeune Français qui s'est interposé face à l'assaillant dans un escalator, peut rester en Australie autant qu'il le souhaite. C'est la promesse que lui a faite aujourd'hui Anthony Albanese. Et puis la grande barrière de corail n'est pas le seul récif corallien dans le monde à être actuellement frappé par une vague de blanchissement massif. Des scientifiques estiment en effet que le réchauffement des océans affecte en ce moment tous les coraux de la planète. L'attaque au couteau lundi soir de l'évêque d'une église orthodoxe de la communauté assyrienne dans l'ouest de Sydney est considérée par les autorités comme un acte terroriste. L'auteur, un jeune homme de 16 ans, a été placé en garde à vue hier soir après avoir blessé 4 personnes, notamment l'évêque qui officiait à l'intérieur de ce lieu de culte. L'attentat a été diffusé en direct sur les réseaux sociaux. Et le travail des services de renseignement, selon leur directeur général Mike Burgess, va désormais consister à définir si la menace est éteinte avec cette arrestation ou si il a potentiellement d'autres complices.
It does appear to be religiously motivated, but we continue our lines of investigation. At the same time, our job is also to look at individuals connected with the attacker to assure ourselves that there is no one else in the community with similar intent. At this stage, we have no indications of that, but it is prudent that we do this to determine there is no threats or immediate threats to security. At this time, we're not seeing that.
Précisons que les 4 personnes qui ont été blessées ont été hospitalisées, mais devraient s'en sortir. Ils n'ont que des blessures légères. Mais il faut ajouter également que cette interpellation, qui a pu se faire sans tuer l'assaillant, a été particulièrement mouvementée, puisque dans les minutes qui ont suivi l'attaque, des centaines de personnes se sont rassemblées autour de cette église, empêchant les policiers d'exfiltrer le suspect. 2 policiers ont d'ailleurs été blessés au cours de ces échauffourées. Ce matin, Anthony Albanese, le Premier ministre, a appelé la population au calme et surtout à résister à l'envie de rendre justice soi-même.
Can I say that we understand the distress and concerns that are there in the community, particularly after the tragic event at Bondi Junction on Saturday. But it is not acceptable to impede and injure police doing their duty. or to damage police vehicles in a way that we saw last night. People should not take the law into their own hands, but should allow our police and our security agencies to do their job.
Les autorités précisent enfin que cet attentat ne semble pas lié à l'attaque qui a eu lieu samedi à Bondi Junction. Un épisode sur lequel est également revenu Anthony Albanese, le Premier ministre, dans sa conférence de presse. Il a cité nommément celui que la presse australienne a baptisé l'homme au poteau. C'est ce jeune Français, Damien Guéraud, qui s'est interposé face à l'assaillant dans un escalator. Eh bien aujourd'hui, Anthony Albanese lui a adressé un message personnel.
I say this to Damien Guéraud, who is dealing with his visa applications, that you are welcome here, you are welcome to stay for as long as you like. This is someone who we would welcome becoming an Australian citizen, although that would of course be a loss for France. We thank him for his extraordinary bravery.
Après avoir été débouté de sa plainte en diffamation contre la chaîne Ten et la journaliste de l'émission de Project Lisa Wilkinson, Bruce Lerman pourrait devoir rembourser leurs très onéreux frais de justice. Ce jugement qui ne portait que sur le volet civil de cette affaire, mais pour la première fois, un tribunal a estimé que Bruce Lerman était bien coupable d'avoir violé Brittany Higgins à l'intérieur du Parlement en 2019. Ils étaient à l'époque tous deux assistants ministériels au sein du gouvernement de Scott Morrison. Et puis à Alice Springs, le couvre-feu instauré il y a près de 3 semaines a été levé. Il interdisait aux mineurs de se rendre dans le centre-ville entre 6h du soir et 6h du matin, à moins d'être accompagné par un adulte ou d'avoir un motif valable pour être dans le secteur. Cette décision avait été prise après une série d'altercations violentes. 35 policiers supplémentaires et des travailleurs sociaux restent déployés sur place pour aider les familles. 4 soldats israéliens ont été blessés hier au Liban suite à une attaque aux engins explosifs revendiqués par le Hezbollah, un groupe soutenu par l'Iran. À Beyrouth, les précisions de Paul Khalife pour RFI.
La bombe a été actionnée par le Hezbollah alors que la patrouille se trouvait à plusieurs centaines de mètres à l'intérieur du territoire libanais. Ce n'est pas la première incursion israélienne au Liban depuis le début des affrontements avec le Hezbollah le 8 octobre. Le parti de Hassan Nasrallah a annoncé avoir déjoué 2 tentatives d'infiltration ces derniers mois. Israël n'avait pas commenté ces informations. Lors de ces incursions, les Israéliens procèdent à des repérages et des reconnaissances sur le terrain. La destruction par le Hezbollah d'une grande partie des systèmes électroniques d'écoute, de surveillance et d'alerte installés le long de la frontière a privé l'armée israélienne de ses yeux et de ses oreilles. Pour pallier cette insuffisance, les Israéliens ont recours aux drones et aux patrouilles au sol. Cette dernière option est risquée, car le Hezbollah a posé des charges explosives et des mines le long de la frontière, et sa force d'élite Ar-Radwan est déployée parfois à quelques centaines de mètres seulement de la clôture. Fin mars, 3 observateurs de l'ONU et leur traducteur libanais avaient été blessés dans une explosion dans le sud du Liban. L'enquête onusienne et celle de la justice libanaise avaient conclu à une mine posée par le Hezbollah selon Israël. Le parti chiite n'avait pas commenté l'incident. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
En Ukraine, la bataille de Tchassivar a commencé. L'armée russe est arrivée aux portes de cette ville du Donbass, une commune clé pour contrôler l'ensemble de la région administrative du Donetsk. Un nouveau front constituant la 3e bataille majeure pour les troupes ukrainiennes à Kiev, Stéphane Sion pour Radio France Internationale.
Certains l'appellent déjà la bataille des 3 ponts, les 3 ouvrages ferroviaires et routiers à l'est de Tchassiviar, au niveau desquels l'infanterie russe est déjà arrivée. Tchassiviar est une petite bourgade peuplée par 13 000 habitants avant-guerre, à première vue insignifiante mais d'une importance stratégique de premier plan lorsqu'on regarde les cartes en relief détaillées, car Tchassiviar est située sur une hauteur rare dans le Donbass et elle domine les axes routiers menant à Kramatorsk et à Slaviansk, les dernières grandes villes du Donbass ukrainien. Si Kiev perd Tchassiviar, l'Ukraine pourrait se retrouver en grande difficulté en vue de conserver des territoires dans le Donbass. Tchassiviar est pilonné par la Russie depuis la bataille de Barmout il y a un an, mais cette fois, les chars et les fantassins russes sont aux portes de la ville, dans un contexte très difficile pour l'armée ukrainienne qui manque dramatiquement de munitions et de systèmes de défense antiaérienne. L'armée ukrainienne a envoyé des renforts pour tenir Tchassiviar. Le Kremlin a quant à lui donné l'ordre à ses troupes de prendre la ville avant les célébrations du 9 mai. Ce qui est d'ores et déjà certain, c'est que dans quelques semaines, il ne restera plus grand-chose du Tchassiviar d'avant-guerre promis à la destruction. Stéphane Siouan, Kiev, RFI.
Aux États-Unis, l'armurière présente sur le tournage du film Rust, durant lequel Alina Hutchins, la directrice de la photographie, a été tuée par un coup de feu tiré par l'acteur Alec Baldwin, a été condamnée à 18 mois de prison pour homicide involontaire. Elle avait accidentellement chargé l'arme utilisée dans le film par l'acteur avec une balle réelle, une responsabilité à laquelle Alina Hutchins a essayé d'échapper d'après le juge qui a rendu le verdict.
The word remorse, a deep regret, coming from a sense of guilt for past wrongs. That's not you. You're hereby sentenced as follows, stand. I am sentencing you to 18 months of incarceration at a New Mexico Women's Correctional Facility. I find that what you did constitutes a serious violent offense. It was committed in a physically violent manner, a fatal gunshot done with your recklessness in the face of knowledge that your acts were reasonably likely to result in serious harm.
Un autre procès très attendu s'est ouvert hier à New York, celui de l'affaire Stormy Daniels, dans le cadre de laquelle Donald Trump est soupçonné d'avoir acheté le silence de cette ancienne star du X. L'ancien président, comme à son habitude, a dénoncé une persécution politique. Il va même jusqu'à dire que ses poursuites judiciaires sont une attaque contre l'Amérique. À New York, les précisions de Guillaume Nodin pour RFI.
L'ancien président est arrivé peu avant 9h30 local au tribunal par une petite rue de côté. Dans l'entrée empruntée par Donald Trump, il est écrit en lettres d'or le nom d'Alvin Bragg, celui du procureur de l'État de New York qui le poursuit pour 34 chefs d'inculpation, correspondant à 34 chèques différents pour un montant de 130 000 dollars de paiement. Dans l'État de New York, c'est un crime passible de 4 ans de prison. Pour Donald Trump, le dossier est vide et il n'y a même pas d'affaire. Ce procès, comme les trois autres inculpations au pénal, tient pour lui de l'escroquerie et de l'intérêt. Interférence électorale. Dans la salle d'audience, où il a montré un visage dont on ne sait s'il est simplement grave, sérieux, inquiet ou de défi, la matinée a été consacrée à l'examen des différentes motions de procédure. Le juge Merchant, qui supervise l'affaire, a notamment refusé de se récuser, comme le réclamait l'équipe des avocats de l'ancien président, en l'accusant de conflit d'intérêts. Une façon, selon le juge, de faire traîner la procédure. Ce qui risque d'être un peu long aussi, c'est la sélection du jury. Elle a commencé, il faut en trouver 12 jurés plus 6 remplaçants qui soient à peu près neutres. Étant donné la notoriété et la personnalité clivante de l'accusé, cela pourrait être compliqué. Guillaume Nodin, New York, RFI.
C'est malheureusement désormais officiel, les températures records enregistrées récemment dans les océans sont à l'origine d'un quatrième épisode de blanchissement du corail d'envergure planétaire. C'est ce que viennent de déclarer des scientifiques américains, et ce au moment même où la Grande Barrière de Corail subit elle-même actuellement une cinquième vague de blanchissement en à peine 8 ans. Comme le rappelle Derek Manzello, ce stress thermique affecte les récifs coralliens non seulement dans le Pacifique, mais aussi dans les océans Indien et Atlantique.
This announcement is really saying, you know, hey, this is a big warning call that, you know, marine health, ocean ecosystems are suffering because the oceans are warming at such an alarming rate that it's causing these devastating impacts to tropical marine ecosystems.
Un mot d'économie pour parler du constructeur et automobile Tesla, dont le PDG Elon Musk a annoncé que plus de 10% de ses employés dans le monde allaient être licenciés, soit au moins 14 000 personnes qui vont perdre leur travail. Objectif pour le PDG, réduire les coûts, alors que la demande mondiale pour les véhicules électriques tend à ralentir. Mais aussi que Tesla est de plus en plus confronté à de la concurrence, notamment à concurrence de constructeurs chinois. La France a rendu hier un hommage national à la romancière Maryse Condé, décédée il y a quelques jours à l'âge de 90 ans. Cette dernière s'était battue toute sa vie pour l'indépendance de son île natale, la Guadeloupe. Retour sur cet hommage avec Édouard Sadaka pour RFI.
C'est par la lecture de quatre textes de Marie Scondé qu'a débuté cette cérémonie d'une heure environ, extrait notamment de son autobiographie « La vie sans phare ». Et avant la prise de parole d'Emmanuel Macron, c'est une chanson, la chanson « L'hymne à l'amour » d'Edith Piaf, qui a été interprétée a cappella par la jeune chanteuse Laura Cluzel.
Et la terre peut bien s'écrouler.
Elle vivait dans l'amour inconfortable de la Guadeloupe, dans l'attachement intranquille à la France. C'est avec ces mots que le chef de l'État a évoqué la mémoire de l'écrivaine, en mettant notamment l'accent sur les batailles qu'elle a menées.
Marie Scondé était cette ironie souveraine contre toute fatalité, ce pouvoir d'imagination contre toute assignation, ce souffle puissant contre toute entrave.
Parmi les 300 invités, l'ex-ministre de la Justice, Christiane Taubira, elle se réjouit que l'hommage ait eu lieu dans la plus grande bibliothèque de France.
C'est le meilleur endroit, c'est le lieu de Maryse, c'est le lieu du livre, c'est son lieu à elle, quoi.
Un hommage national à Maryse Condé qui s'est achevé au son de la Marseillaise.
Allons, enfants.
Et on termine ce bulletin avec un point sur la météo de ce mardi en Australie. 31 degrés et du soleil aujourd'hui à Perth, soleil aussi à Adelaide où il fait 23 degrés, 19 degrés et quelques averses attendues à Melbourne, 22 degrés à Canberra et 25 à Sydney où le ciel est dégagé, 28 degrés à Brisbane où il fait beau également et idem à vrai dire à Darwin où il fera jusqu'à 35 degrés aujourd'hui. Allez, on retrouve maintenant Christophe Mallet pour le magazine des sports.
Journal des sports et on débute avec du football. La 29e journée de la Ligue 1 en France, donc du championnat de football français. Et quelques résultats. Alors déjà, c'est une journée qui est divisée en deux pour faute de Champions League. Donc il y a moins de matchs que d'habitude. Les matchs et les résultats. Lyon qui bat Brest, le score de 4-3. C'est un très beau résultat pour les Lyonnais avec un but à la dernière seconde dans un temps additionnel plutôt controversé pour les Brestois. Brestois deuxième du championnat, je vous le rappelle. Donc Lyon qui bat les deuxièmes du championnat 4-3. Nantes qui bat Le Havre sur le score de 1-0. Reims qui perd face à Strasbourg 3-1. Toulouse qui bat Rennes sur le score de 2-1. Clermont, les derniers du championnat, la lanterne rouge, qui fait match nul avec Montpellier. Et Lens qui n'en peut plus de perdre. Lens dans une spirale descendante, pourtant après un début d'année plutôt intéressant. Lens qui perd contre Metz sur le score de 2-1. On écoute d'ailleurs l'entraîneur lensois Frank Hayes.
Moi, mon seul objectif, c'est que voilà, les 6 matchs qui nous restent, on veut essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, où est le meilleur de nous-mêmes ? Vraisemblablement, il n'est pas au niveau où on était l'année dernière. Ça, je crois que tout le monde en est conscient, et nous les premiers. Ce n'était pas pour piquer les joueurs que j'ai dit que la Ligue des Champions, ce ne serait pas pour nous. C'était vraiment de la transparence. Il faut être au clair. Il y a des objectifs qui sont réalisables. On en a de réalisables. Pas, pour moi, pas la Ligue des Champions. Mais on va tout donner, et je veux qu'on donne tout jusqu'au 18 mai. Pour aller chercher la plus belle place pour le club.
Frank Hayes, donc l'entraîneur lensois qui se concentre sur atteindre une place donc en Coupe d'Europe. Je vous le disais, la journée est divisée puisque le reste de cette 29e journée aura lieu le jeudi 25 avril et on verra Lorient recevoir le Paris Saint-Germain, Monaco recevra Lille et Marseille recevra Nice. Au classement, le Paris Saint-Germain est toujours en tête avec 63 points. Devant Brest, je vous le disais, deuxième avec 53 points, troisième Monaco avec 52 points, Lille est 4e avec 49 points, Nice est 5e avec 44 points, Lens avec cette défaite passe à la 6e place en bas de classement, Metz est 17e avec 26 points et Clermont lanterne rouge de ce championnat avec 22 points. Direction l'Espagne et avec l'Atlético Madrid et avec son entraîneur Diego Simeone qui nous parle du match à venir cette semaine contre le Borussia Dortmund. Diego Simeone.
En principio nosotros pensamos en
On se concentre d'abord sur nous-mêmes. En face, c'est un rival direct qui réussit une saison extraordinaire, qui a de très bons résultats à l'extérieur et qui joue bien. Je les trouve courageux. Ils sont et resteront fidèles à leur style de jeu bien défini. On reconnaît bien la patte de leur entraîneur. Tant qu'ils sont convaincus par ce qu'ils font, alors à nous de prendre le jeu à notre compte. Et là, nous pourrons leur faire mal.
L'Atlético Madrid avait battu le Borussia 2-1 au match aller. Match retour demain matin pour nous, ici, en Australie. Allez, un dernier mot de football avant de passer au tennis. Le président français Emmanuel Macron s'est exprimé sur le cas Mbappé. Vous allez voir, entre guillemets, il fait un appel du pied au Real Madrid.
On va tout faire pour. Moi, j'ai confiance dans les clubs français et européens, si je puis dire. Vous savez ce que je veux dire ? On a l'euro, c'est ça le problème. Je pense qu'il faut que les clubs jouent le jeu pour qu'on ait un grand spectacle. C'est une de mes craintes, je suis d'accord avec vous.
Le Real Madrid aussi ?
Exactement, quand je parlais des clubs européens, c'était ça. Non, après, il faut que les joueurs se le mettent bien dans leur plan de charge et d'entraînement aussi. Parce qu'on a l'euro, j'espère qu'on va jouer jusqu'au 14 juillet. Et je le pense, je le veux. Et après, on a le... Ils ont des reprises précoces pour beaucoup, donc il faut qu'on
libère un peu. Vous en avez parlé avec Lionel Mbappé ?
J'en ai pas parlé encore avec lui, mais j'espère que son club surtout lui laissera.
C'était donc Emmanuel Macron, le président français, qui fait un appel du pied, vous l'aurez compris, aux clubs européens, mais notamment au Real Madrid, pour pouvoir relâcher Kylian Mbappé pour les JO de Paris cet été. Allez, un mot de tennis pour conclure ce journal des sports. Victoire de Stefanos Tsitsipas à Monte Carlo. C'est la troisième victoire du Grec sur le caillou monégasque. Mais le fait marquant également de cette semaine monégasque, c'est eh bien le retour en forme de Novak Djokovic, retour en forme sur la terre, ce qui n'était pas forcément donné. Il aura fait une demi-finale perdue contre Ruud, donc qui était donc finaliste de cette Open de Monaco contre Tsitsipas. Novak Djokovic, en français dans le texte, déçu mais content.
Ça a été dur, beaucoup de fatigue, j'ai souffert sur le court physiquement. Je sais pas qu'est-ce qui passe, mais. Mais c'est comme ça, quand tu joues sur cette surface qui est très, très lent, beaucoup d'échanges, c'est pas mon niveau meilleur, mais je tous les jours cherche pour mon niveau maximum. Je sais que j'attends pas qu'il arrive cette semaine, mais je suis en demi-finale, chose que j'ai pas réussi de faire les derniers 10 ans, donc je suis très heureux d'y être ici.
Voilà, Novak Djokovic, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause, on se retrouve dans le reste du programme. Vous écoutez Le Français sur Radio SBS. À tout de suite.
Samedi après-midi, peu avant 16h, le centre commercial Westfield du quartier de Bondi Junction à Sydney a été le théâtre d'un drame. 6 personnes ont été tuées et 12 autres blessées dans une attaque à l'arme blanche. L'assaillant est lui aussi décédé, abattu par la police. Parmi les victimes figurent un homme et 5 femmes, dont une jeune mère de famille de 38 ans. Son bébé de 9 mois, lui aussi, était grièvement blessé dans l'attaque. À l'extérieur du centre commercial, hier en fin d'après-midi, des témoins présents dans les allées au moment du drame témoignaient des scènes de terreur. Fiuma et son partenaire Mohamed étaient au 4e étage où semblent s'être déroulés la plupart des faits. Ils racontent.
I was inside the Lulu shop, the sport clothing shop. Me and him, we were paying at the counter. I saw the guy, he's wearing green and the knife was massive and he was just, you know, hitting everyone. And then I saw there was a girl just right in front of Cotteron and she was on the floor already bleeding. And in the look, there was another guy or girl on the floor as well that looks like dead.
Des scènes d'horreur rapidement partagées sur les réseaux sociaux qui montrent l'assaillant, identifié par la police comme un homme de 40 ans, connu des services de police, attaqué au couteau plusieurs personnes. Comme beaucoup d'autres, Yuma et Mohamed ont d'abord tenté de trouver où se cacher. C'est dans un magasin de sport que le couple a pu trouver refuge.
Because I was just a few meters away from him. Honestly, I was just screaming at my partner that no, come inside. We have to look for change room to just go hide. Suddenly the police arrived and they shut the Lulu door and we were there for an hour.
Yeah, like 45 to 46 minutes.
Au deuxième étage, Sandy n'a rien vu de l'attaque, mais il décrit des scènes de panique. Très vite, la rumeur qu'un homme muni d'un couteau sévit dans le centre commercial se propage, puis viennent des coups de feu.
All the shop is closing down. We heard the shoot two times. I don't know what happened, and then they just getting us to come inside the store, and then they close the door.
Après les tirs, c'est l'incompréhension. Plus tard, on apprendra que les coups de feu proviennent de l'arme d'une policière intervenue sur les lieux qui a abattu l'assaillant.
When you hear gunshot right next to you, you will suddenly scare. What's happening? What's happening?
Présent au cinquième étage dans le food court, Joshua, 13 ans, raconte lui aussi l'ambiance terrifiante dans le centre commercial.
Well, I did see people running from the food court. And just, I've never been in a situation like this before, so I was quite nervous and shaky.
Alors que les boutiques ferment leurs portes, mettant de nombreux clients à l'abri, pendant que certains parviennent tout de même à sortir du centre commercial, les unités d'intervention de la police de Nouvelle-Galles du Sud entrent dans l'enceinte. La peur monte alors encore d'un cran. C'est ce que raconte Michelle, la mère du jeune Joshua.
I think it was so quick. I was concerned with Joshua being the youngest. It was quite scary seeing the riot squad rock up and they had their guns and everything right in front of us.
Présente au même étage que Joshua et sa mère, Alison et ses filles ont, elles, assisté à l'un des nombreux actes de bravoure salués par le Premier ministre australien Anthony Albanese dans son allocution samedi soir à Canberra après l'attaque.
As we got to the escalator, someone had said that there was someone with a knife. And then we saw there was a gentleman, he had it looked like a post of some kind, and he threw it at another gentleman who was on an escalator and he had a knife. He looked quite angry. Even when he was walking, his mannerisms, he was quite angry. That's just the way he looked. I didn't hear anything being said, nothing was said, it was just that.
Hors du centre commercial, après l'évacuation, l'ambiance est lourde, un large dispositif policier et de secours a été mis en place et les informations parviennent au compte-gouttes, aux rescapés et aux passants. Ranon a dû attendre de sortir du bâtiment pour comprendre l'ampleur des événements.
We're all left safely and then we're all outside and we're all just here, everyone's just shouting for some guy with a knife stabbing, you know. And then after that, we're just waiting to see what happens. We see some people coming out of the building in the ambulance, you know, some dead, some injured.
Dans la soirée, plusieurs heures après les faits, de nombreuses personnes attendaient encore de pouvoir récupérer leurs affaires dans le centre commercial ou leurs véhicules dans les parkings souterrains. Des policiers lourdement armés procédaient, eux, toujours à des vérifications dans le bâtiment. Un jour après les faits, les hommages se sont multipliés à l'international. Le roi Charles III se disant horrifié par l'attaque et le pape François profondément attristé. Anthony Albanese a lui condamné un horrible acte de violence. Ce dimanche, de nombreuses fleurs ont été déposées à proximité du centre commercial à Bondi Junction pour rendre hommage aux victimes. La piste terroriste semble s'éloigner ce dimanche. La police affirme que l'assaillant de 40 ans, connu sous le nom de Joe Cauchy, un ressortissant de l'État du Queensland, souffre de problèmes de santé mentale. À l'heure où ce podcast est enregistré, 3 personnes blessées dans l'attaque restent toujours dans un état critique, en soins intensifs, dans des hôpitaux de la ville de Sydney.
h 49 minutes, vous êtes sur Radio SBS, c'est toujours l'émission en français. Et tout de suite, on va s'intéresser à un droit que les Français sont sans doute ceux qui en font le plus grand usage dans le monde. Je parle bien sûr du droit de manifester. Alors en Australie aussi, on manifeste, mais les règles encadrant cette activité, parfois gênante dans la vie du quotidien, mais néanmoins essentielle dans une démocratie qui se respecte, eh bien les règles qui encadrent le droit de manifester en Australie sont bien plus strictes que dans la plupart des pays européens, et elles ont tendance d'ailleurs à devenir de plus en plus restrictives. Alors, on fait le point et on vous explique tout, c'est maintenant.
Vous êtes avec SBS French.
La plupart des gens croient qu'en Australie, manifester est un droit. Et pourtant, le droit de manifester n'est pas explicitement mentionné dans la Constitution. En revanche, comme le rappelle Luc McNamara, qui est professeur de droit à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, la Constitution garantit un droit à la communication politique.
There are some examples of express recognition of the right to peaceful assembly in a small number of jurisdictions that have human rights acts, like Victoria, the ACT and Queensland. But for most parts of the country and nationally, there's no specific place that says you have the right to protest. And yet, part of our common law tradition is that we embrace the idea of a right to protest.
Les lois encadrant le droit de manifester en Australie diffèrent d'un État à l'autre. Et celles-ci peuvent être très générales et assez vagues. Dans l'État du Queensland ou en Australie occidentale, l'activité minière est à la fois un élément clé de l'économie, mais aussi un secteur qui suscite de nombreuses controverses. C'est ce qui explique pourquoi ces deux États ont adopté des législations qui restreignent très fortement le droit de manifester. Ainsi, s'il est permis de participer à une manifestation, tout comportement jugé comme inacceptable pendant une manifestation peut entraîner une arrestation. Le professeur McNamara nous précise que ce qui relève d'un comportement inacceptable reste en général à l'appréciation de la police.
Doing harm to others, damaging property, they're unacceptable. As to what is acceptable, it really is a question of degree. So the behavior is really assessed on a case-by-case basis. So for example, the acceptability of a particular protest activity, whether it's a march or a sit-down or a lock-in or whatever it might be, that's going to be assessed by police officers on the spot.
Ce qui relève, selon la loi, d'un comportement acceptable s'applique également à ce que vous ramenez à une manifestation. Ainsi, comme l'explique Nikita White d'Amnesty International, tout ce qui pourrait être utilisé comme une arme pourrait vous causer de sérieux problèmes.
You can take banners and posters to a protest. You can take works of art that may be about your protest, but you should be careful about anything you have on you that might be considered a weapon. If it's knives or flares, you should definitely not have them with you, just on the off chance that you are searched.
Les manifestations, en général, provoquent des perturbations dans la vie de tous les jours. C'est ce qui explique pourquoi les gouvernements ne les voit pas d'un bon œil et cherche, en adoptant de nouvelles lois, à les encadrer toujours plus. Mais pour le professeur McNamara, les manifestations font partie de la vie de toute société démocratique. Il faut donc, d'après lui, accepter que parfois, elles chamboulent notre train-train quotidien.
It's fair to say that disruption is inherent to the activity of protesting. We've seen a lot of agitation in recent years by governments and some other stakeholders suggesting that it's inappropriate for protesters to disrupt. But if you think about it, the whole point of a public protest is to gather attention, to encourage people to stop and reflect and listen to the message that's being conveyed.
Bien entendu, cela cause des frictions et chaque État et territoire en Australie impose des sanctions aux gens provoquant des perturbations majeures. Et ce qui est commun à toute l'Australie, c'est que manifester sur un lieu d'activité majeure tel qu'un port, une route, une zone d'abattage d'arbres ou manifester de manière à empêcher certaines personnes de se rendre sur leur lieu de travail est interdit. Et comme le souligne le docteur Sarah Moulds, qui est professeur de droit à l'Université d'Australie méridionale, dans les cas les plus sérieux, les peines peuvent aller jusqu'à 2 ans de prison.
So you don't have to intend to cause other people any type of hardship. You don't have to intend that people were going to be late for work or really badly disrupted. You just have to do the thing and you could be caught. But in practice, these laws have not been used very much at all. When they have been used, it's been in the more serious cases. For example, in Queensland, where there's been cases of people being prosecuted when they clamp themselves to a bridge or a road.
En la matière, c'est actuellement l'État d'Australie méridionale qui est le plus répressif, puisque les manifestants, qui par leur action perturberaient l'accès à un lieu public, s'exposent à une peine pouvant aller jusqu'à 3 mois de prison. Par ailleurs, d'autres peines sont prévues en cas de violation de propriété, si les manifestants sont masqués, s'ils empêchent des services d'urgence de circuler, s'ils emploient un langage menaçant ou offensant, ou s'ils causent des dégradations. Mais en réalité, seuls les manifestants violant intentionnellement les lois sont arrêtés, d'après Nikita White.
Most people who are arrested are engaging in civil disobedience, which is where someone intentionally breaks the law as part of a protest. So they may lock themselves on to a building, they may unfurl a banner from a bridge, or something else that isn't violent but is breaking the law as part of a protest.
Depuis quelques années, on constate un durcissement des lois anti-manifestation dans toute l'Australie. Sarah Moulds relève ainsi que le Human Rights Law Center a relevé 26 lois adoptées à travers le pays ces 20 dernières années et qu'aucune d'entre elles ne protège ou n'étend le droit de manifester. Elles visent au contraire toutes à le restreindre.
Most of those 26 laws that have passed have made it harder to protest. So increase the penalties around the country. So I think overall you can say there is a trend towards criminalising aspects of protest. What we see in most places in Australia is the type of conduct they're criminalising is that conduct that happens at a certain place.
Par ailleurs, contrairement à ce qui se passe en France et dans la plupart des pays d'Europe, pour organiser une manifestation en Australie, il ne suffit pas d'en aviser les autorités, il faut en plus que celles-ci vous donnent leur autorisation. Si vous cherchez donc à organiser une manif ou une marche, il faudra préalablement demander la permission à la police ou au conseil municipal local, qui dans la majorité des cas vous donneront leur feu vert. Écoutez à ce sujet les explications du professeur McNamara.
If your assembly is an approved one, then you are exempt from some of the powers which police might otherwise exercise to close down your protest. So, for example, traffic obstruction can be allowed for a period of time if it is an approved protest and streets have been blocked for that purpose or the march has been supervised, those sorts of things.
Si une manifestation est autorisée, les risques d'intervention policière sont quasi nuls. Mais cela ne veut pas dire que la police ne sera pas présente, un point sur lequel insiste Nikita White.
If you're going to a protest in Australia, it will be hopefully protected by the police. That's their role in a protest, to help you protest and allow you to protest. And if something does go wrong in that unlikely case, make sure you reach out to a lawyer and they can explain the charges to you and what can be done.
Si vous deviez être arrêté au cours d'une manifestation, des maisons d'accès au droit, qu'on appelle en Australie des Community Legal Centers, sont là pour s'assurer que vos droits sont respectés. La plupart des sanctions liées à des manifestations prennent la forme d'amendes plutôt que de peines de prison. Celles-ci ne s'élèvent en général à pas plus que quelques centaines de dollars, rappelle Sarah Moulds.
We do luckily live in a society where police and prosecutors and judges really still value this freedom and so haven't been applying the most serious penalties. If you have privilege and access to knowledge, you can organise a protest where you won't be subject to criminal law. It's just that when people don't know about those processes, they can be at risk of some kind of legal consequence.
Si vous souhaitez obtenir des informations plus précises concernant la législation encadrant le droit de manifester en Australie, vous pouvez vous rapprocher d'organisations telles qu'Amnesty International, le Human Rights Law Center ou encore le New South Wales Council for Civil Liberties. Vous venez d'écouter un sujet compilé par Melissa Campagnoni et traduit en français par Grégory Pless.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
Tu me trouves beaucoup trop froid. Tu dis que je m'éloigne de toi. Au fond tu sais que. Et quand tu doutes encore de moi, tu dis que je pense à d'autres femmes. Au fond tu sais que.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte sur un extrait de ce morceau d'Arma Jackson, un artiste originaire de Lausanne en Suisse, qui interprète ici un titre qui s'appelle « Tu sais que ». Notre prochain rendez-vous en direct, ce sera jeudi à 13h. N'oubliez pas d'ici là de vous abonner à notre chaîne SBS French sur votre appli audio préférée. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt.
Tu sais que...
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.